VOA Afrique.
Le Monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour à tous et à tout le monde aujourd'hui. Édition du mardi 9 janvier 2018. En direct de Washington, Idrissa Seydoudia et Anne Albertson. Nous commençons par les titres.
Au Mali, assassinat à Tombouctou du chef de bureau de la douane par des assaillants non identifiés.
En République centrafricaine, poursuite aujourd'hui à Bangui du procès du général Andilo, redoutable chef anti-Balaka.
En République du Congo, fin de la grève à l'université publique de Brazzaville.
À Madagascar, 29 morts et plus de 80 000 sinistrés après le passage du cyclone Ava sur l'île.
Premier face-à-face aujourd'hui entre les deux Corées à Panmunjom, dans la zone démilitarisée.
Et ne manquez pas notre page sport ainsi que la minute éco pour l'instant. Le journal.
À Tombouctou, au Mali, des assaillants sur trois motos ont ouvert le feu sur le lieutenant Abdoulkader Amadou Touré, dit boxeur, chef du bureau de la douane de Tombouctou. Il a été atteint par plusieurs balles alors qu'il était dans son grain, lieu de rencontre entre amis au Mali. Des détails avec notre correspondant Kassim Traoré.
Après la prière du crépuscule où les gens se préparent pour le dîner, c'est le moment que les hommes armés ont choisi pour perturber le début de soirée à Koiratao, secteur de Sankore. C'est dans ce secteur que Abdelkader Amadou Touré, affectueusement appelé boxeur, a été criblé de balles par des hommes armés. Il était 19h40 lorsque leur traditionnel point de convergence de tous les après-midi a reçu la visite des bandits armés. Ici, ils se retrouvaient avec des amis pour jouer aux cartes. Les assaillants avaient fait des tirs de sommation avant de lui dire de remettre les clés de son véhicule 4x4 de service, ce qui fit fait sans résistance et comme pour lui dire merci, deux balles traversèrent son tympan, une autre au thorax. Les bandits, après leur forfait, ont pris la fuite. Le douanier a été assassiné par 6 individus armés de PM circulant sur 3 motos. Boxer est la seule victime de cette attaque, alors que les autres membres de son grain ont eu la vie sauve. Ce qui fait croire qu'il s'agit d'un règlement de compte. Son inhumation a eu lieu dans la nuit du même lundi, comme le souhaitent les traditions de Tombouctou. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
Les pays du G5 Sahel, Mali, Tchad, Burkina Faso, Niger et Mauritanie ont annoncé hier à Bamako la création d'un fonds fiduciaire pour gérer l'aide promise à leurs forces conjointes anti-djihadistes. Cette décision prise lors d'une réunion des ministres des Affaires étrangères et de la Défense du G5 Sahel intervient une semaine avant une nouvelle rencontre à Paris entre États membres et pays donateurs.
En République centrafricaine, poursuite ce mardi de la session criminelle ouverte hier à Bangui et où le redoutable chef anti-Balaka, appelé général Andilo, était à la barre. Le procès a été suspendu après une heure de débat houleux, Freeman Sipila.
Âgé de 25 ans, le général Andilo s'est présenté devant la barre avec un air déconcerté, la tête rasée. Debout au milieu de ses deux avocats, l'homme porte un maillot du Milan AC et un pantalon jean bleu. Il est poursuivi pour assassinat, détention illégale d'armes de guerre, association de malfaiteurs, vol à main armée et recel de vol. Près d'une heure après l'ouverture de la séance, le débat devient houleux entre le procureur général et le conseil de l'accusé.
Le parquet général est en train de me couper les ailes. L'audience est suspendue.
La cour interrompt le procès et le renvoie au 11 janvier prochain. Maître Madoukou, un des avocats du général Andilo, est satisfait.
Imaginez, vous avez été informé de cette audience. On n'a même pas les pièces du dossier. Le parquet général a fait rétention des pièces du dossier simplement dans le but d'entrer en voie de condamnation avec notre client commun. Nous avons refusé et la cour a dit le droit.
De son vrai nom, Rodrigue Ngaïbona, le général Andilo était à la tête d'une puissante faction anti-Balaka qui a marché le 5 décembre 2013 sur Bangui. L'homme craint, dit-on, pour ses pouvoirs mystiques, a été arrêté le 17 janvier 2015. À Bouka, dans la préfecture de l'Ouam, par la MINUSCA. Freeman Sipila, Bangui, VOA Afrique.
La grève à l'université publique de Brazzaville est terminée depuis hier au Congo. Les enseignants et le personnel administratif demandaient le versement d'une subvention trimestrielle estimée à 1,8 million d'euros et le paiement d'arriérés de salaire. Leur fronde aura duré 4 mois, Morgane Guériec.
L'Assemblée générale des syndicalistes a décidé de la suspension de la grève et a appelé l'ensemble des travailleurs à reprendre le travail. Didier Galabaye, porte-parole de l'intersyndicale, a expliqué que 3 mois de salaire ont été versés, puis 50% des primes pour les heures supplémentaires de l'année 2015-2016. Il reste 3 autres mois de salaire, mais selon lui, la grève est suspendue parce que la solution proposée permet de continuer les négociations. Hier, dans plusieurs établissements de l'université publique, le calendrier des examens, des concours d'entrée et des sessions de rattrapage a été affiché. Outre l'université publique, le centre hospitalier universitaire a aussi connu plusieurs mouvements de grève en 2017. Il faut dire que le pays vit une grave crise économique provoquée par la chute du prix du pétrole, sa première ressource d'exportation.
À Madagascar, les pluies torrentielles qui ont accompagné le passage du cyclone Ava ont fait 29 morts et plus de 80 000 sinistrés. Le point avec Yacouba Ouedraogo.
Le nouveau bilan de 29 morts a été publié hier par le Bureau national de gestion des risques et des catastrophes. 17 des personnes touchées par le cyclone Ava sont mortes hier à la suite d'un glissement de terrain qui a provoqué l'effondrement d'une maison. Le cyclone a frappé la grande île vendredi avant de quitter le territoire samedi. Des vents violents et des pluies diluviennes ont fait déborder des cours d'eau et provoquer des inondations. De nombreuses localités ont été privées d'électricité et des routes coupées. En mars 2017, le cyclone Enao a fait au moins 78 morts. Au cours des 10 dernières années, Madagascar, l'un des pays les plus pauvres de la planète, a été frappé par 45 cyclones et tempêtes tropicales.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le vice-président des États-Unis, Mike Pence, effectuera à compter du 20 janvier une délicate tournée au Proche-Orient qui doit le mener en Égypte, en Jordanie, puis en Israël. Le point avec Abdulrahman Dia.
Mike Pence doit rencontrer le 20 janvier au Caire le président égyptien Abdel Fattah al-Sissi. Il se rendra ensuite à Amman pour un tête-à-tête avec le roi de Jordanie, Abdallah II. M. Pence doit aller en Israël les 22 et 23 janvier pour des rencontres avec le premier ministre Benjamin Netanyahu et le président Reuven Rivlin. Il fera un discours devant la Knesset. Initialement annoncé pour la fin décembre, ce déplacement a été repoussé après la décision du président Donald Trump de déclarer Jérusalem capitale d'Israël. Cette décision a provoqué la colère des Palestiniens qui veulent faire de Jérusalem-Est, annexée par Israël, la capitale de l'État auquel ils aspirent. Depuis son arrivée à la Maison-Blanche, M. Trump s'est targué d'être en mesure d'obtenir un accord de paix entre Israéliens et Palestiniens. Mais Mahmoud Abbas, le président de l'autorité palestinienne, a averti fin décembre que les Palestiniens n'accepteraient aucun plan de paix proposé par les États-Unis.
En Iran, un protestataire de 22 ans est mort en détention, selon 2 parlementaires du pays. Cette nouvelle intensifie les craintes au sujet d'une répétition des abus qui avaient suivi des protestations similaires en 2009. Le député réformateur Mahmoud Sadeghi a déclaré qu'on lui avait dit que le détenu Sina Ganbari se serait suicidé. Plus de 1000 personnes ont été interpellées lors des protestations qui ont éclaté il y a quelques 2 semaines et fait au moins 21 morts en Iran.
Premier face-à-face aujourd'hui entre hauts responsables nord-coréens et sud-coréens, après 2 ans marqués par une série de tirs de missiles nord-coréens et de rhétorique hostile de Pyongyang. Les discussions se tiennent dans la zone démilitarisée à Panmunjom, où a été signé l'armistice de 1953 qui a mis fin au combat de la guerre de Corée. Les deux pays sont toujours officiellement en guerre. Le président américain Donald Trump a qualifié ses pourparlers directs de grands débuts et il espère qu'ils iront au-delà d'une conversation sur la participation nord-coréenne aux Jeux Olympiques du mois prochain en Corée du Sud.
Le gouvernement américain va suspendre la protection dont bénéficient depuis presque 2 décennies quelque 262 500 ressortissants du Salvador. C'est ce qu'ont annoncé hier matin de hauts responsables de l'administration Trump. Ce statut de protection temporaire ou TPS qui mettait à l'abri d'une expulsion ces centaines de milliers de Salvadoriens arrivés aux États-Unis après 2 tremblements de terre dévastateurs prendra fin le 9 septembre 2019. Selon Washington, le Salvador s'est assez bien remis de ces catastrophes pour qu'il retourne maintenant chez eux.
Des discussions préliminaires sont en cours pour établir les modalités d'un éventuel interrogatoire de Donald Trump par le procureur spécial Robert Mueller dans le cadre de l'enquête sur une possible ingérence russe dans l'élection présidentielle de 2016 aux États-Unis, a rapporté lundi la chaîne NBC. Les réponses du président pourraient être données par écrit plutôt qu'en face à face. Le Washington Post, qui cite une source proche de M. Trump, indique pour sa part qu'un interrogatoire sur un nombre limité de questions pourrait avoir lieu dans les prochaines semaines. Les autorités russes nient toute implication et le président Trump réfute toute collusion entre des membres de son équipe de campagne et le Kremlin.
L'année 2018 vient à peine de commencer et déjà des spéculations sur les candidats possibles à la présidentielle de 2020. Tout ça à cause du discours prononcé dimanche soir lors des Golden Globe Awards par Oprah Winfrey, grande vedette de la télévision américaine. Mais l'intéressée elle-même n'est pas candidate, pas officiellement du moins.
Fin de ce journal sur VOA Afrique. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui.
La Minute Éco, Eric Manirakiza.
La BCAO veut calmer les utilisateurs du franc CFA. Elle dément les rumeurs sur de faux numéros de série sur les billets de 5 000 et 10 000 francs CFA. Par conséquent, la BCAO rassure la population de l'Union monétaire ouest-africaine que la gamme actuelle des billets de banque en circulation demeure valide et n'ont subi aucune modification. L'Italie va consacrer exclusivement au Niger 40% de ses aides pour l'Afrique. En juin dernier, l'Italie a accordé 32 milliards de francs CFA au Niger pour faire face à la sécurité de ses frontières. Le 14 décembre dernier, Rome a promis 100 millions d'euros pour consolider les liens économiques. Il est prévu prochainement une journée de présentation du Niger aux entrepreneurs italiens. D'après le rapport sur le développement dans le monde 2018, des centaines de millions d'enfants à travers le monde entrent dans la vie adulte sans avoir acquis les compétences nécessaires à la vie. L'éducation est l'un des investissements les plus fructueux, mais la qualité varie fortement à l'intérieur d'un même pays et d'un pays à l'autre. Moins d'un enfant sur cinq à l'école primaire possède les compétences requises en maths et en lecture. Environ 12% des adultes nés dans certaines économies subsahariennes à faible revenu dans les années 1980 sont plus instruits que leurs parents, tandis que dans certaines parties de l'Asie de l'Est, l'on compte plus de 80% de la population adulte.
À présent, les sports avec Nicolas Pinault. Nicolas, bonjour.
Bonjour Tessa, bonjour à tous.
C'est officiel et signé, Coutinho est barcelonais.
Et oui, l'ancien joueur de Liverpool qui est devenu samedi le troisième footballeur le plus cher de l'histoire. Tenez-vous bien, 120 millions d'euros la signature, plus 40 millions de bonus selon la presse. Eh bien Coutinho s'est engagé hier jusqu'en 2023 avec le FC Barcelone lors d'une cérémonie organisée au Camp Nou. Philippe Coutinho a signé au FC Barcelone où le Brésilien aura pour mission de faire oublier son compatriote Neymar, le joueur qui a déclaré que c'était un rêve et un honneur d'évoluer sous les couleurs Blaugrana.
Autre pépite européenne, Harry Kane à Tottenham.
Et oui, Tottenham ne peut pas espérer retenir Harry Kane, son joueur vedette de 24 ans, sans faire un effort financier. C'est ce qu'a estimé hier son entraîneur Mauricio Pochettino. Selon la presse britannique, Kane, qui a signé en 2016 un nouveau contrat qui court jusqu'en 2022, est modestement payé seulement 6 millions d'euros. C'est pas beaucoup pour un joueur de la première ligue anglaise. On se souvient que Zinedine Zidane avait dressé des louanges à ce joueur, évoquant peut-être un prochain transfert vers le Real Madrid.
Saison blanche, ou presque, pour Andy Murray en tennis.
L'ancien numéro 1 mondial Andy Murray qui vise un retour sur les courts pour la saison sur gazon qui va être disputée à partir du mois de juin. On se souvient qu'il avait été opéré de la hanche droite en Australie. L'Écossais, absent du circuit ATP depuis plus de 6 mois, avait été contraint la semaine dernière de déclarer forfait pour l'Open d'Australie. Allez Drissa, je vous laisse donner quelques résultats de NBA, le championnat de basket nord-américain.
Milwaukee et Indiana 96-109, Toronto et Brooklyn 114-113, Houston et Chicago 116-107, Cleveland et Minnesota 99-127, Detroit et New Orleans, 109-112.
Radio Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Seydoudia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Le Sénégal observe depuis hier 2 jours de deuil national après l'assassinat de 13 jeunes en Casamance, une région en proie à une rébellion vieille de 35 ans. Une théorie qui intervient alors que le processus de paix a beaucoup progressé ces dernières années. Le mouvement des forces démocratiques de la Casamance a nié toute implication dans ces meurtres. De Dakar, Sédina Abagui.
La violence a ressurgi en Casamance au moment où on s'y attendait le moins. Cependant, Salou Sambou, membre du groupe de réflexion pour la paix en Casamance, affirme que cet événement dramatique ne remet pas en question le processus de paix.
Nous étions très avancés dans le processus de paix et on a été surpris de voir une telle brutalité et une telle ignominie. Maintenant, il faut attendre pour voir qui a pu commettre cette bévue et pourquoi. Parce que nécessairement, il y a une cause. Donc, il faut être persévérant, être patient et faire en sorte que ça ne puisse pas impacter négativement sur le processus de paix. Et je ne pense pas, parce que le président lui-même s'est prononcé, dit que ça n'a rien à voir avec le processus de paix qui va continuer.
Amadou Saraba, ancien correspondant de l'agence de presse sénégalaise à Ziguinchor, rappelle que des événements similaires s'étaient déjà produits il y a quelques années dans la même zone.
Généralement, c'est des périodes très douloureuses. Il y avait eu une attaque de ce genre. C'était à Diagnon. C'était, je me rappelle, le 21 novembre 2011. 10 jeunes coupeurs de bois avaient été massacrés à quelques kilomètres entre la frontière bissau-guinéenne. Mais le jour, on a assisté à des scènes vraiment terribles parce que les populations avaient accusé le choc.
L'ancien gouverneur Salou Sambou estime qu'il est essentiel de renforcer la sécurité dans la partie sud du pays afin de rassurer les populations.
Mais en fait, il faut qu'on renforce la sécurité au niveau de la Casamance parce que c'est la zone malade du Sénégal. Et c'est là où les djihadistes peuvent entrer. Ça peut leur donner des idées avec ce qui s'est passé. Ça peut leur donner des idées et ils peuvent s'approcher. Nous ne savons même pas qui est qui.
Face aux multiples accusations, le mouvement des forces démocratiques de la Casamance s'est démarqué de cet acte et a fermement condamné ces violences. En attendant les conclusions de l'enquête, le président de la République a décrété 2 jours de deuil national en mémoire des victimes. À Dakar, Seydina Abagui pour VOA Afrique.
FM 102, c'est VOA Afrique à Dakar au Sénégal, 24h sur 24.
Situation précaire dans la région de Paoua en Centrafrique où 35 000 personnes ont été déplacées par des violences récentes entre Exceleka et RJ qui ont fait des dizaines de morts. La ville de Paoua voit arriver tous les jours, de nouvelles personnes fuyant leur village incendié. Pour davantage de détails, Nathalie Barge a joint le président préfectoral de la jeunesse de Louampende, Vianney Gbara.
Ces derniers temps, dans la sous-préfecture de Paoua, il y avait une attaque des éléments de Seleka contre les éléments de RJ dans les sous-préfectures, c'est-à-dire les communes périphériques de Paoua. Et pendant cette conflit, il y avait plusieurs morts et il y avait aussi plus de 2000 maisons qui ont été incendiées. Il y a aussi présentement à Paoua, nous avons presque même 35 000 déplacés qui sont là, qui vivent dans des conditions précaires, qui n'ont aucune assistance. Jusqu'à l'heure actuelle, nous avons plusieurs personnes dans le village qui sont en train de venir dans la localité de Paoua.
Comment sont-elles soutenues justement ces personnes si elles n'ont pas d'assistance humanitaire?
Jusqu'alors, il n'y a aucune assistance. Parce qu'il y avait à peine 2 jours, il y a le ministre de la Défense et celui de la Sécurité. Ils étaient venus, ils ont tenu une réunion à Paoua. Et jusqu'alors, il n'y avait personne qui s'occupe de ces déplacés. Donc, certaines vivent dans les familles d'accueil et d'autres se retrouvent dans des écoles.
Et qu'en est-il de la situation sécuritaire aujourd'hui dans la région?
Présentement, il y avait, à Paoua Centre, il y avait les troupes militaires qui faisaient la patrouille et dans les périphériques, dans les communes. Il n'y avait même pas de patrouille, donc ces personnes qui se retrouvent là-bas, ils ont fui leur maison parce que leurs maisons ont été pillées, brûlées. Donc, ils sont tous au niveau de Paoua. Donc, la situation sécuritaire est vraiment très, très, très précaire. Il y a plusieurs femmes, des enfants qui souffrent, des femmes enceintes, Les femmes sont en train de vivre dans des conditions difficiles. Les enfants, il n'y a pas des écoles, il n'y a pas des hôpitaux. Parce que les hôpitaux sont brûlés, les écoles sont brûlées. La situation est vraiment très, très grave.
D'après vous, les forces de sécurité donc, ne sont pas du tout dans ces villages pour sécuriser ces lieux actuellement?
Aucun poste de la sécurité nationale qui est dans ces villages-là. Parce que vous voyez, Paoua n'est pas loin de Tiab. Donc vous voyez que la frontière est vide, il n'y a aucune sécurité qui est dans cette région-là. Donc il y a seulement la force de la MINUSCA qui est basée seulement à Paoua et dans les périphéries, dans les villages, aux frontières, il n'y a personne, il n'y a aucune sécurité.
Le président préfectoral de la jeunesse de Luampende, Vianney Ngbara, joint à Paoua en Centrafrique.
Votre rendez-vous quotidien sur VOA Afrique à Bangui, c'est sur 101.7 FM en République centrafricaine.
En République démocratique du Congo et en attendant la mise en œuvre effective du PNDDR3, le Programme national de démobilisation, désarmement et réinsertion, la MONUSCO appuie au Sud Kivu l'encadrement d'une quarantaine d'ex-combattants dans l'agriculture et l'élevage à moins de 5 km de la cité d'Uvira. L'objectif est de créer des emplois pour ces démobilisés venus des centres de formation de Kamina et de Kitona, et aussi pour les membres vulnérables de la communauté qui les accueille. Notre correspondant Ernest Muhero est allé à la rencontre de ces cultivateurs.
C'est dans une ambiance de joie et de grand labeur qu'une quarantaine d'anciens combattants reconvertis à l'agriculture labourent la terre aux côtés d'une cinquantaine de civils vulnérables, dont les veuves des militaires ici à Kinyamburu. Ces ex-combattants déjà démobilisés ont choisi d'être utiles à leur communauté au lieu d'alimenter des violences à gauche et à droite. Constatant qu'Osimambo a jadis servi sous le mouvement armé FPDC, Force Populaire pour la Démocratie du Congo.
J'ai choisi de travailler pour le développement parce que mon métier des armes ne m'a pas vraiment apporté un quelconque intérêt. Je suis très fier de communiquer avec la population. J'invite les autres combattants à quitter les maquis et venir savourer la paix. La population nous met à l'aise.
Selon l'ingénieur agronome Maouta Loufikira qui encadre ses agriculteurs, cette synergie de démobiliser avec les vulnérables a déjà produit et récolté entre autres 3 tonnes de maïs et 5 tonnes de riz. La dite synergie est décidée à labourer jusqu'à 8 hectares de champs et creuser 33 étangs piscicoles. Madame Véronique Nkanou, veuve d'un militaire, déclare qu'à force de travailler avec les démobilisés, le préjugé d'avance sur eux tombe petit à petit.
Je suis fière de ce travail car l'agriculture nous unit avec les ex-combattants et nous travaillons ensemble en équipe. L'attente est bonne, il n'y a pas de bagarre. En ce qui me concerne, ce travail aide beaucoup ma famille et surtout pour entretenir mes enfants.
L'initiative est de la mission des Nations Unies actuellement en RDC MONUSCO pour décourager l'activisme des groupes armés sur les populations civiles. Le chef des bureaux de la MONUSCO au Sud Kivu, Karna Soro, explique.
Les équipes DDR travaillent pour sensibiliser pour que les jeunes gens qui sont dans ces groupes armés puissent quitter ces groupes armés. Cette grande étendue de riz que des ex-combattants, des anciens Maïmaï sont en train de faire à Uvira, pour moi est un exemple de ce que quelqu'un peut faire d'autre pour réussir autrement dans la vie.
Claude Missaré, coordonnateur de la nouvelle société civile congolaise à Uvira, appelle la MONUSCO à suivre de très près l'exécution de ces projets, car c'est une question qui peut perturber la sécurité des milliers si l'encadrement des ex-combattants n'est pas efficient.
J'ai dit à la MONUSCO de faire un suivi, parce qu'à Uvira il y a plusieurs groupes armés. Lorsqu'il faut recruter, ils ne doivent que venir solliciter. C'est là qu'ils sont connus, qu'ils sont des bons tireurs. Ils viennent avec une motivation. Alors ces gens doivent être bien gérés dans l'agriculture pour qu'ils ne puissent pas avoir une idée de retourner dans les groupes armés. Lorsqu'ils sont bien gérés, moi je pense que ça va amener même leurs collègues qui sont restés dans les montagnes à descendre.
Certains démobilisés contactés fin décembre 2017 se plaignent qu'à ces jours, ils n'aient reçu aucune formation sur comment s'organiser pour mieux écouler de façon rentable leur production agricole. Cette production reste gardée au dépôt. Venue de Kitona et d'ailleurs, ces démobilisés qui ont choisi l'agriculture pour la paix, c'est Hertz au coût du loyer à Uvira et ses environs. D'Uvira au sud qui vous, Ernest Mouero, VOA Afrique.
Restez branchés 24h sur 24 sur VOA Afrique à Bukavu en RDC sur 97.4 FM.
Le pape François a reçu hier l'ensemble des ambassadeurs accrédités au Saint-Siège pour le traditionnel discours des vœux. L'occasion pour le souverain pontife de faire le point sur les grands dossiers internationaux. Jacques Aristide a joint le père Janvier-Marie Gustave Yameogo du secrétariat pour la communication du Vatican.
Il a souligné que c'est une belle coutume. Le pape a insisté sur les 70 ans de la Déclaration des droits de l'homme de 1948, qu'il a qualifié de base d'une diplomatie multilatérale. Et il a rappelé aussi les objectifs du Saint-Siège, à savoir favoriser le bien-être spirituel et matériel de la personne humaine et la promotion du bien commun. Mais je voudrais insister sur deux aspects principalement. C'est la promotion de la vie et la défense du droit à la vie. Et le pape a souligné que des nouveaux droits sont arrivés suite aux bouleversements sociaux de 1968. Et on en est venu à instaurer des formes modernes de colonisation idéologique des plus forts et des plus riches au détriment des plus pauvres et des plus faibles. Il insiste même sur des droits violés, à commencer par le droit de la vie, la liberté et l'inviolabilité de chaque personne humaine. Et il évoque notamment les enfants rejetés avant de naître, les personnes âgées considérées comme un poids, les femmes violentées, les victimes de la traite. Il insiste sur la promotion d'un droit à la santé pour tous en favorisant l'accès aux soins à des prix accessibles. Ensuite, le deuxième point sur lequel je voudrais insister est également l'urgence de réelles politiques de soutien aux familles. Parce qu'on sait comment, surtout en Occident, la famille est considérée comme une institution dépassée. Et malheureusement, a commenté le pape François, on préfère des liens fugaces à la stabilité d'un projet définitif.
Il a également fait un tour d'horizon des points chauds de la planète, y compris des régions d'Afrique. Qu'est-ce qui préoccupe précisément le Saint-Siège en ce qui concerne le continent africain ?
Il a effectivement tout un paragraphe concernant le continent africain et il appelle la communauté internationale à ne pas oublier les souffrances de nombreuses parties du continent africain. Spécialement, il a cité le Sud-Soudan, la République démocratique du Congo, la Somalie, Nigeria, la République centrafricaine, où justement, il insiste, le droit à la vie est menacé par l'exploitation abusive des ressources, par le terrorisme, par la prolifération de groupes armés, par des conflits persistants. Et il ne suffit pas de s'indigner face à tant de violences, il faut plutôt que chacun, dans son domaine propre, œuvre activement pour éradiquer les causes de la misère et pour construire des ponts de fraternité, conditions fondamentales d'un développement humain authentique, a dit le pape. Il a évoqué l'Afrique effectivement aussi en matière de migration, en saluant les efforts et l'engagement de nombreux pays en Afrique qui font des efforts pour accueillir les migrants à leurs frontières. Et cela, je pense que c'est une bonne chose de le souligner parce que souvent on voit les migrants qui viennent vers l'Europe, vers l'Occident, mais on oublie la migration intérieure, interne, en Afrique même. Et le pape salue les efforts des peuples pour accueillir et intégrer ces personnes réfugiées et migrants.
C'était le père Janvier-Marie Gustave Yameogo du secrétariat pour la communication du Vatican.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com, à tout de suite.
Hello, hello, I'm your English host. Je suis votre présentatrice pour l'anglais, Michelle Joseph, ici au micro. Voulez-vous mieux parler l'anglais? C'est fait. Retrouvez-moi tous les soirs à partir de 21h, temps universel, sur VOA Afrique et sur notre site internet à www.voaafrique.com. Cliquez sur Apprenez l'anglais pour retrouver les leçons de tous les jours. Et les week-ends sur ondes courtes, le samedi et le dimanche à 20h TU. Pour mieux parler l'anglais, to speak better English, ne ratez pas English USA sur VOA Afrique.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique en direct de Washington. Voilà, c'est tout pour cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi. À la console, Darius Smith. Merci à Anne Albertson pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Idrissa Seloudia à Washington. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.